C'est pas très sérieux notre façon de faire ça, mais ça marche quand même. Donc, c'est la seconde leçon enregistrée, je devrais dire. Et donc, on va parler encore un tout petit peu concernant les hiérarchies. On va parler un petit peu sur les pères apostoliques. Ça, c'est tout ce qu'on va discuter cette fois-ci. Donc, nous avons tous entendu parler de la succession apostolique. L'Église catholique se base sur le principe que Pierre était le premier apôtre, le premier pape, et qu'il a confié son autorité à celui qui a suivi, successeur, et que ça s'est suivi à travers les siècles. Et donc, le pape aujourd'hui se dit successeur de Pierre, sur le trône de Pierre, comme on dit. Et à l'origine, cette idée de succession apostolique, donc déjà, ce n'était pas restreinte à la question de l'Église de Rome. C'était simplement que les Églises voulaient savoir quelle forme ou quelle pensée du christianisme était authentique. Alors, si une Église était fondée par un apôtre et non pas simplement par des chrétiens, on pensait que, voilà, cette Église devait être plus juste dans la vérité qu'une autre église qui était fondée par quelqu'un qui n'était pas un apôtre. Donc, c'était quelque part le désir de maintenir la doctrine pure à cette époque-là. Nous faisons des fois le même genre de choses, mais on se demande qui a fondé cette église-là, qui a démarré cette église-là, quelles sont leurs doctrines. On pose un peu les mêmes genres de choses, mais on n'utilise pas cette même formulaire de question succession apostolique. Donc, vous avez bien compris. Succession apostolique, au début, quand on parlait de ça, ça n'avait rien à voir avec Pierre. Est-ce qu'il y a un apôtre qui a commencé l'Église de Rome? Non. Quand Paul écrit l'Épître aux Romains, il n'y a pas d'apôtre à Rome. Il y a une église, c'est plein de chrétiens, surtout juifs, mais il n'y a pas d'apôtre. Donc, c'est Paul, l'apôtre, qui s'intéresse à l'église de Rome à l'époque. Hein? OK. Donc, la succession apostolique, enfin, ça concerne tous les apôtres, mais pas un apôtre en spécifique, particulier. Question?
Oui, mais c'est vrai que dans la Bible, Pierre, il n'a pas un statut pour le nommer comme ça, le mettre sur un trône et tout ça.
Non. Mais il y a quelques phrases qui sont spécialement données à Pierre en ce qui concerne les clés,
oui, les clés
du royaume des cieux et aussi Jésus le restaure. Après qu'il avait renié Jésus, après donc Jésus passe du temps spécial pour dire paître mes brebis et tout ça. Donc nous pensons que les clés, c'était justement le thème de livre des Actes des apôtres. Donc les clés, c'est pour ouvrir les portes. Alors quand l'évangile a démarré, donc une fois que Jésus était mort, ressuscité et remonté au ciel, il avait dit, j'envoie mon Saint-Esprit, le Consolateur, et lui, il va vous donner le pouvoir d'évangéliser à Jérusalem, Judée, Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Et donc, dans les Actes des apôtres, on voit que que le message de l'évangile arrive en premier en Jérusalem, chez les Juifs. Après, on voit que, donc Juifs, Jérusalem, c'est en Judée. Après, on voit que Pierre est là c'est Pierre qui prêche le jour de la Pentecôte. Après, c'est un autre qui prêche chez les Samaritaines, mais il ne reçoit pas le Saint-Esprit avant que Pierre arrive. Et puis, quand c'est Corneille, le païen qui veut se convertir, eh bien, Dieu envoie Pierre pour utiliser encore les clés. Donc, il y avait trois clés, un, deux, trois, et les trois clés étaient utilisées. N'importe quel juif, n'importe quel samaritain, n'importe quel païen a le droit maintenant à croire en Jésus-Christ afin d'avoir l'entrée au ciel. Je le dis comme ça, c'est pour le pardon des péchés, etc., pour la vie éternelle. Mais c'est ça, les clés. Donc, Pierre utilise les trois clés. Maintenant, les portes sont ouvertes. Mais on ne passe pas les clés de génération en génération. C'est que les portes sont ouvertes. Donc, autrement, non. Il n'y avait pas d'autre chose spéciale, mais ça, c'est quand même spécial. Pierre avait une partie très importante au début du christianisme. Mais pas à Rome. C'était pas à Rome, c'était à Jérusalem. Jérusalem, puis en Samarie, et puis encore, je crois, l'autre, aussi à... Je ne sais plus où ça se trouve. Bon, au début, là, dans le premier siècle, et quand on commence le second siècle, il y a quand même pas encore un système conforme dans toutes les églises. On a l'église de Galates est différente que l'église d'Éphèse, qui est différente de l'église de Philippi, de Philippe, qui est différente de l'église de Laodicée. Chaque église est différente. Il n'y avait pas encore une main mise qui obligeait tout le monde de croire et agir ou même fonctionner de la même façon. Vers le début, c'est dans la première partie du deuxième siècle, il y a un évêque à Rome, à savoir qu'il y a plusieurs évêques à Rome. Il y avait peut-être 33 églises à Rome, je ne sais plus les chiffres exacts, si c'était 33, 39 ou quelque chose. Donc on les appelle les paroisses, n'est-ce pas? Dans l'église catholique, une église, un pasteur, une église a des paroissiens, les gens de paroisse. Donc ça, c'est une zone géographique qui sert tous les chrétiens dans ce quartier-là. Et donc un des pasteurs ou des évêques à Rome, qui s'appelait Ignace, insistait que les églises devaient être soumises aux évêques, que les autres églises plus loin devaient être soumises. Je lis mal mes notes là. Excusez-moi. Ah, excusez-moi, ok. Oui. Rebobiné dans l'enregistrement. Donc, Ignace était un pasteur à l'église d'Antioche. Vous vous souvenez de l'église d'Antioche? C'est de là, c'est l'église qui a envoyé Paul et Barnabas. Donc, c'était une église qui est très importante dans l'histoire du christianisme. Et le pasteur d'une église, donc à Antioche, il prétendait avoir une autorité au-dessus de toutes les autres églises. Parce que c'était la première église chez les païens. C'est l'église qui a envoyé Paul, qui a démarré toutes ces autres églises. Donc, quelque part, Ignace croyait avoir autorité sur les autres églises. Bon, Antioche n'est pas Rome. Hein, donc, on voit au début, ça n'avait rien à voir avec ce qu'on peut penser aujourd'hui. Alors, on a déjà parlé un tout petit peu de l'hiérarchie, mais il nous dit que ce mot hiérarchie vient d'un mot grec, hierus, qui veut dire le prêtre, ou ça peut être de hieron, qui veut dire le temple, ou ce qui est sacré. Et l'idée, c'est que les prêtres ou les pasteurs sont dans une espèce de pyramide et ont une autorité, et en bas de cette pyramide, c'est les gens. Et donc, vous savez bien que Jésus a dénoncé un tel système quand il parlait à ses disciples. Donc, quelques disciples voulaient être en haut, plus fort, plus haut niveau que les autres. Et donc, même une mère a demandé, « Est-ce que mes deux fils peuvent être à ton droit et à ton gauche? » Et la réponse a été, « Ce n'est pas comme ça dans le christianisme. Celui qui veut être le plus grand doit être le plus bas. On va être serviteur de tous, comme Jésus était serviteur. » Donc, cette idée de hiérarchie qui est appliquée à la religion, et ça n'a rien à voir avec ce que Jésus avait prévu. Donc, vous voyez ici sur ma papier là, mon papier, il y a une petite pyramide là. Ce n'est pas le même qu'ils disent ici, mais il y a l'empereur, après il y a les grands, et par la suite les divers grands, et le grade, le grand, et à la base, il y a les classes populaires, dans le côté séculier, païen. Empereur, les gouverneurs et tous les divers grades de grandes, et après les classes populaires. Et avec le temps, l'Église catholique et romaine a reproduit le système de l'État romain pour avoir le pape et les divers niveaux jusqu'aux classes populaires. Donc, ils ont ajouté des divers niveaux dans l'Église romaine à travers les siècles. Nous pensons que ce système hiérarchique est ce qui est visé par le mot Nicolaïte. Donc, on a parlé de ça déjà, n'est-ce pas? Nicolaïte venant non pas d'une phrase « les œuvres de Nicolaïte » ou les œuvres ou le secte de Nicolas, mais voulant dire quelque chose comme « oppression du peuple ». OK? Donc, on voit le mot « laïque » dans ce mot, et on pense que c'est ça que ça veut dire. Alors, on veut insister que pour nous, les croyants, c'est une vérité, mais c'est que nous qui le reconnaissons, seule la parole de Dieu est sans erreur et inspirée. Donc, on va parler, je pense quand je tourne la page, d'autres écrits du 1er siècle, du 2e siècle. On a parlé de ça déjà, mais pas sur l'enregistrement. Ce n'est pas parce que quelque chose est ancien que ça devient la parole de Dieu. Donc, on ne respecte pas un document simplement parce qu'il était écrit il y a longtemps. Seule la parole de Dieu est sans erreur, seule la parole de Dieu est inspirée de Dieu. Donc, les hommes doivent se fier à la parole de Dieu. Ils doivent se méfier des hommes, mais ils doivent se confier à la parole de Dieu. Alors, on reconnaît que même les bons chrétiens se trompent, malgré tout. Moi, je peux dire des bêtises, vous pouvez dire des bêtises, n'importe qui pourrait dire des bêtises. Donc, ce n'est pas parce qu'une personne travaille dans la religion que ce qu'il dit devient plus vrai qu'un autre. On revient où? On revient toujours à la parole de Dieu. C'est une grande erreur de suivre un homme à la place de Dieu. Donc, c'est pour cela qu'on a toujours la responsabilité d'évaluer ce que dit le prédicateur ou l'enseignant, parce qu'il est possible qu'il dit une chose qui n'est pas vraie. Bon, s'il dit une chose qui n'est pas vraie, vous n'êtes pas obligé de le croire.
Ce que l'Écriture nous dit, sondez les Écritures.
Sondez?
Oui. Sondez les Écritures pour voir.
Oui, oui. Et ça, c'est un droit que nous avons de sonder les Écritures. Et un devoir.
Un devoir.
OK. En parlant donc du 1er siècle, parce qu'on passe du 1er siècle au 2e siècle aujourd'hui, il y avait un pasteur à Rome, qui est peut-être même mentionné dans la Bible. Dans Philippiens chapitre 4, verset 3, il y a un qui s'appelle Clément. J'ai mentionné cette personne une fois aussi. Donc, il a vécu de l'année 30 à l'année 100. Il était peut-être un disciple de Paul. Et on voit que dans son optique du christianisme, c'est très juif. Alors, il n'y a qu'un seul manuscrit grec de son livre qu'il a écrit, son épître qu'il a écrit. Donc, qu'est-ce que je vous ai dit la dernière fois? la plupart, ou l'autrefois, la plupart de littérature est disparue entièrement. Alors, Clément de Rome, on a un document, certainement avec quelques fautes, mais des manquements, mais au moins on a un. Donc, ça s'appelle, il y a deux, premier épître de Clément et le second épître de Clément. Premier épître de Clément, c'est écrit par Clément. Second épître de Clément est une fraude, une contrefaçon, qui est écrite deux, trois siècles plus tard, mais on voulait utiliser le nom d'une personne bien connue pour. C'était la façon que les gens qui étaient des inconnus pouvaient faire passer leur littérature, c'était en volant le nom d'une autre personne. Donc ça c'est pas quelque chose de nouveau de nos jours. Alors il y avait une dispute à Corinthe, comme c'est l'habitude, et une dispute à, dans quelle ville? Attendez, c'était dans quelle ville? Oui, la dispute est à Corinthe, et donc Clément est à Rome, et ils répondent, donc les chrétiens de Corinthe ont écrit à Clément à Rome, Clément de Rome, pour demander comment régler cette dispute. Et la dispute, c'était que les jeunes dans l'Église se rebellaient contre les anciennes. Donc, il fallait exhorter que les jeunes respectent les anciennes. Et ce qui est intéressant, ben, j'ai lu ça il y a longtemps, c'est qu'il y a une grande correspondance entre ce que Paul a écrit dans 1 Corinthiens et les thèmes repris dans le premier épître de Clément. C'est le même forme générale qu'il a suivi, le même thème. Donc, est-ce que c'était coïncidence ou est-ce que c'était parce qu'il a dit, tiens, je vais simplement repiquer sur Paul, je ne sais pas. Il y a d'autres écrivains, on les appelle les pères apostoliques. Les pères apostoliques sont les hommes non apostoliques qui ont écrit suite aux apôtres. Donc, on dit les pères apostoliques. On a les apôtres, on a Jésus-Christ. On a les apôtres et puis on a ce qu'on appelle les pères apostoliques. Donc, Clément de Rome est un des plus anciens de ces pères apostoliques. Les écrits des pères apostoliques ne sont pas inspirés. Ce sont des pasteurs comme moi qui ont écrit quelque chose. Ils ont une certaine valeur historique pour savoir ce que pensaient ces gens-là, pour voir leurs erreurs, pour voir leurs bonnes choses, mais pas inspirés. Nous ne devons pas nous baser sur leurs écrits. Un autre s'appelle le didache. J'ai mentionné ça une fois. Ça veut dire quelque chose comme l'enseignement. Donc, certains pensent que c'était du premier siècle. D'autres disent que c'est le début du deuxième siècle. On ne sait pas, mais la chose qui nous intéresse le plus dans cela, c'est que c'est là qu'on donne l'idée qu'on peut baptiser en dehors d'une rivière ou quelque chose, en versant sur la tête trois fois pour représenter un vrai baptême. Mais on n'a pas le droit à suivre ça. On sait simplement que dans les cas extrêmes, des fois, certains ont pensé à agir comme ça. Il y a un autre qui s'appelle le pasteur de Hermas. Hermas. H-E-R-M-A-S. L'année 140 à 155. C'est un homme, ça c'était son pastorat, c'est un homme qui était un esclave. Il a consacré, il avait consacré sa vie à gagner de l'argent et puis il s'est repenti et il est devenu chrétien. Et puis, il a écrit sur beaucoup de choses de la foi. Le problème, c'est qu'il ne parle pas de l'Évangile. Donc, il s'appelle pasteur, mais il ne parle pas de l'Évangile. Dans certaines choses, il est proche à la bonne doctrine, mais il croit à la purgatoire, au purgatoire. Mais il ne donne pas de référence biblique à son croyance. Donc, c'est déjà dans la première partie, première moitié du second siècle, donc 115 ans après Jésus, que déjà il y en a qui croient qu'il y a de purgatoire.
Et qui a inventé le purgatoire?
Ben, je ne sais pas qui a inventé ça, mais dans la tête, on peut imaginer même que l'histoire que Jésus a racontée concernant les deux hommes en Géhenne, quand l'homme riche voulait revenir, tout ça, on peut simplement faire un glissement dans la tête et dire que bon, ils étaient là pour purger leur peine. Donc on n'a pas besoin d'aller loin pour trouver une source pour ça, mais je ne connais pas les détails exacts, mais il y a cette référence historique, et puis les catholiques vont retourner dans les Maccabées, les livres de Maccabées, un ou deux Maccabées, pour soutenir cette thèse. Mais pas dans la Bible propre. Hein.
C'est pour les Maccabées.
C'est des livres historiques. C'est les Juifs qui... c'était à peu près le deuxième siècle avant Jésus-Christ, où il y a eu une...
Avant Jésus-Christ.
Avant Jésus-Christ, oui. Donc ça fait partie entre-testamentaire. Donc Malachie, c'est le dernier livre de l'Ancien Testament, c'est écrit en hébreu. Nouveau Testament est écrit en grec. Donc tous les livres de l'Ancien Testament sont écrits en hébreu. Et il y a ce livre-là, il y a d'autres livres aussi, mais cela, ça raconte l'histoire de cette famille de Maccabées qui ont délivré Israël de la main des... je pense que c'était si je ne me trompe pas, c'était les Grecs. Il les a délivrés des Grecs ou des Syriens, je ne me souviens plus.
Enfin, c'est plutôt c'est historique, quoi.
C'est historique, oui. Et c'est des gens de grande valeur, valeur morale, de courage et tout ça. Mais au moins, un Maccabée, deux Maccabées, c'est plus mythologique. C'est historique, mais ce n'est pas inspiré.
Oui,
c'est en grec et ce n'est pas en hébreu. Mm. OK? Donc, on n'accepte pas ça comme une base de la foi.
Oui, parce qu'il y a plein de... Il y a des Bibles avec des machins comme ça.
Là où la Bible de Jérusalem, je crois. La Bible de Jérusalem.
Ça, c'est les traductions.
Tous les
Bibles catholiques portent ces livres-là.
Il y a des livres...
Oui, on va parler de ça aujourd'hui, je pense. Donc, après, comme j'ai mentionné déjà Clément de Rome, je ne vais pas revenir sur lui. Donc, on va tourner la page. J'ai mentionné Ignace de Antioche. Oui. Est-ce qu'il y a d'autres choses là? Il dit, l'évêque pasteur est présenté comme étant le chef des anciens et comme le successeur des apôtres. Il y a Polycarpe. Polycarpe a écrit sur la vie consacrée et celle de son épître, et cela dans son épître aux Philippiens. Il fait plus de 50 citations du Nouveau Testament. C'était vers l'année 150. Et Polycarpe, il était pasteur à Smyrne. Vous vous souvenez du nom de Smyrne dans la Bible? Il y a les sept églises dans l'Apocalypse. Il est pensé, donc on ne peut pas l'affirmer, mais on pense que Polycarpe était disciple de Jean. Et un des disciples de Polycarpe était Irénée. Ça vous dit quelque chose en France, Irénée? Irénée était pasteur à Lyon. Il était martyr, un des premiers martyrs en France. Bon, ce qui est devenu plus tard la France. Il est mort à l'âge de 86 ans. Il a refusé de dire que César est Seigneur. Et il a refusé de diffuser de l'encens à l'empereur. Donc, il était vu comme un traître de l'État. Donc, il a écrit son courrier aux Philippiens parce que les Philippiens lui ont demandé certaines questions. Dans son lettre aux Philippiens, il parle dans ses salutations, il parle dans des louanges aux Philippiens. Après, il parle de la vie chrétienne, il parle de l'amour, de l'obéissance au commandement du Seigneur, de la fidélité à Jésus-Christ, de l'amour et de l'unité, et puis il donne ses bénédictions, et puis on arrive à la fin de son épître. Il y a encore quelques ressemblances entre ce que Polycarpe a écrit et ce que Paul a écrit. Donc c'est intéressant. Mais bon, à vrai dire, si j'écris quelque chose, j'espère que ça ressemble un peu à ce que la Bible
oui,
dit.
C'est évident qu'ils se sont guidés par les paroles de Paul.
Je pense.
Ils étaient croyants, ils ont connu la parole grâce aux écrits de Paul.
Donc, où Polycarpe était sous l'influence de Jean, à Smyrne. Donc, c'est Jean qui écrit à l'église de Smyrne. Mais ces documents étaient communiqués à travers toutes les diverses églises. Je pense qu'il y avait une partie là que je voulais vous lire, mais je ne le trouve pas. Vas-y.
Pourquoi est-ce que tu appelles épître les écrits?
Épître? Un épître, ça veut dire une lettre. C'était les petites lettres. Mais ça, c'est drôle. J'avais quelque chose d'autre. Je ne vois pas où ça s'est passé. Bon, ce que je voulais dire, et bon, je fais sans note, mais à l'époque, quand on passait un livre disons, on était ici, à Brive, et donc Paul a écrit une lettre à Limoges, et puis je voudrais avoir une copie de cette lettre que Paul a écrite à Limoges, donc je demande qu'il m'envoie des copies, ou que je vienne. Alors, par la suite, on va regrouper tous ces courriers, toutes ces lettres comme ça. Mais tout ce système est très cher, le papier est très cher, le temps que ça prend pour écrire est très cher. Après, relier les documents est très cher. Donc, ce qu'on considère que la personne même considère important, que ce soit ses finances, les feuilles de ses finances, ou ses lettres d'amour, ou son copie de Maccabée, sa lettre de l'Apocalypse, son document l'Apocalypse, et puis peut-être deux, trois lettres de Paul. Et puis pourquoi pas le courrier de Polycarpe ou de Clément. Donc on va les coudre tout ensemble. Et puis ça va entrer dans le foulée de littérature de l'Antiquité. Alors par la suite, on va trouver ce document-là et on va vouloir le copier. Donc on commence à copier et puis on dit tiens, il y a Polycarpe là-dedans. OK, on copie ça et on copie. On ne fait pas un grand effort pour éditer ce qu'il a, on copie ce qu'il a. Et c'est comme ça que certaines de ces choses qu'une personne ou une autre considérait importantes ont entré dans la conscience chrétienne, on va dire. Pas que c'était inspiré, mais que c'était mis à côté de ce qui était inspiré. Et donc, pour nous, par la suite, pas nous-mêmes, mais la tradition catholique, entre guillemets, reconnaît toujours une certaine, pas égalité avec les Écritures, mais une certaine autorité à ces documents. Et même les églises protestantes officielles, donc je ne parle pas de tous les protestants, mais les églises officielles protestantes ont un haut respect pour les écrits des pères apostoliques et aussi pour les premiers 8 conciles jusqu'à l'année 800 ou quelque chose comme ça, les conciles œcuméniques. Donc, nous, étant des chrétiens bibliques, on ne connaît même pas que ces choses existent, donc on n'a pas de respect pour les pères apostoliques et on n'a pas de respect pour les 8 conciles œcuméniques. On vient toujours où? Répète. On revient toujours à la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu ne se trompe pas. Les conciles ont pu se tromper. Les pères apostoliques, ils présentent toutes les positions possibles, de toute façon, tous les hérésies et toutes les vérités. Et tout est là. Oui, parce que c'est l'époque. C'est pas qu'ils ont été vrais dans la littérature, mais qu'ils étaient des chrétiens qui écrivaient, sans pour dire autant que ce qu'ils disaient était correct.
Mais ils n'étaient pas chrétiens.
Si.
Tu as dit qu'ils avaient, ils vivaient... Ah non, oui, oui, non, pardon. Mais c'était après, c'était au deuxième.
Finir ta pensée.
Non, ça va. J'ai confondu avec les Maccabées.
Les Maccabées étaient les Juifs deux siècles avant Jésus-Christ. Et là, on parle, oui, de chrétiens deux siècles après Jésus-Christ. Mais ça, c'est une bonne chose.
Hmm? Ils ont suivi les apôtres.
Et une chose aussi qui arrive à ce changement de siècle, donc vous allez vous souvenir que dans l'année 70, Tite, il me semble que c'était Tite, est venu détruire Jérusalem. Donc il n'y a plus de Jérusalem, il n'y a plus de temple.
Tite?
Oui, là, celui qui est devenu, je crois c'est... Je ne sais pas, Tite?
Je ne sais pas.
Je pense que ça c'est son nom. Mais peut-être. Je vais chercher.
Non, mais...
Attends, je vais trouver. Non, mais c'est bien de me. Non, c'est pas dans la Bible.
C'est pas dans la Bible, ah, bah, c'est non. Pour ça.
Oui, c'est, il s'appelle Tite. Oui, c'est comme le livre de Tite.
Ouais, c'est ça,
bah, Titus. Et il écrit Titus. Titus.
Ah, Titus.
Titus et Tite, c'est le même nom. Je ne sais pas pourquoi on prononce différemment. Mais bon, peut-être, oui. Donc, Titus a détruit Jérusalem. Et puis, à l'année 135, il y a eu une autre rébellion. Et donc, tout Israël était... Tous les Juifs étaient expulsés et emmenés d'Israël. Donc, à partir de 135, il n'y a plus de Juifs, en principe, en Israël. Peut-être quelques paysans n'étaient pas retrouvés, mais c'est à cause de ça qu'on commence à dire, bon, peut-être l'Église a remplacé Israël. Donc c'est à cette époque-là déjà qu'on commence à spiritualiser les Écritures en disant que ce qui est écrit aux Juifs maintenant applique aux chrétiens. Donc on va commencer à parler des prêtres et les choses comme ça, pour spiritualiser, pas des vrais prêtres, mais le vocabulaire va commencer à être appliqué au christianisme dans le second et troisième siècle, comme si on était les Juifs, en les remplaçant des Juifs. Mais ça, c'était une erreur de faire cette assimilation des choses. Donc là, on va arrêter là. On a parlé des pères apostoliques. Il y a plein. Il y a, si vous... Vous avez l'argent, vous pouvez acheter peut-être, je vais voir, au moins 20 volumes de pères apostoliques. Il y a trois dates de pères apostoliques. Donc, il y a beaucoup d'auteurs.
Oui, il y a beaucoup d'auteurs.
Beaucoup. Et là, dans les notes de classe là, on parle des persécutions. Nous avons déjà parlé de persécutions. On sait que les persécutions ont eu lieu. Nous n'allons pas passer du temps à parler de tout ça parce que c'est pas du tout édifiant, à mon avis. Même quand j'ai enseigné ce cours, je passais tout de suite. Et je vais voir s'il n'y a pas un mot.
Et pourtant, il faut savoir quand même qu'il y a eu des persécutions et qu'il y en a qui ont perdu la vie.
Mais ce n'était pas pour défendre la foi, mais c'était à cause de la foi, oui.
À cause de la foi. En fait, c'est parce qu'il refusait d'adorer autre que Jésus.
Si quelqu'un veut lire à propos de toutes ces tortures et tout ça, je peux vous prêter cette feuille. Ça vous intéresse de lire toute la torture?
Non.
Ok, c'est bien. Je suis content que vous êtes sage. Je vais répéter le nom des pères apostoliques qu'on a mentionné là. Donc, c'est la Didache, pasteur de Hermas. Hermas, donc, n'a pas cité la Bible, quoi. Clément de Rome, Ignace d'Antioche, Polycarpe. On n'a pas mentionné Papias, donc je ne me souviens plus. Papias, je pense, était un autre disciple de Jean. Et donc, on va commencer avec les apologistes la prochaine fois. Apologie veut dire défendre. OK? Voilà. Question?
Non. Mais c'est vrai que c'est compliqué. C'est compliqué.
Bah, c'est peut-être ma présentation qui est compliquée.
Le cheminement pour arriver jusqu'à nos jours.
Bah, il y a un long cheminement pour arriver à nos jours. Mais au début, c'était le début du christianisme. Il n'y a rien d'organisé. Les chrétiens prêchent la parole. Il y a des convertis. Les convertis se regroupent. On appelle ces regroupements des églises, des églises locales. Après, ça continue et les églises disparaissent ou des nouvelles églises sont démarrées, mais certaines églises sont toujours là. Et avec le temps qu'on arrive à la fin du premier siècle, on commence à avoir un christianisme qui commence à prendre forme. Et dans le deuxième siècle, on commence à avoir les règles et les formes que les chrétiens doivent respecter. À travers, il y a des persécutions. Et donc, les chrétiens fuient les persécutions ou ils sont torturés, tués, tout ça. Mais il y a toujours des convertis. Toujours des convertis, toujours des convertis. Et les chrétiens font beaucoup de bonnes œuvres à cette époque-là. Ils n'ont pas peur. Ils sont très courageux d'être chrétiens. Et donc, ça arrive que quand les Romains mettent un enfant dans la rue parce qu'ils ne le tuent pas, mais ils le laissent mourir comme ça, au lieu de faire un avortement, on a la naissance de bébé, puis on le met dans la rue pour mourir. Et les chrétiens récupéraient ces enfants-là et les adoptaient pour que les bébés ne meurent pas. Et donc il y a tout un tas de choses, mais c'est très simple au début. Ça devient simple mais divers. Comme j'ai dit au début, les chrétiens, chacun dans son quartier, dans sa région, ils étaient les églises un peu différemment. Et c'est le second siècle qui commence à conformer. On insiste beaucoup sur cette conformité, c'est dans l'esprit romain. La conformité est dans l'esprit païen romain. On n'aime pas la différence. Et malheureusement, aujourd'hui, je pense qu'on ressemble souvent trop au second siècle et non pas suffisamment au premier siècle des chrétiens. Bon, tout en disant que le rapprochement au second siècle, c'est qu'on fixe quelques règles à vivre. On vit d'après telle règle. Mais qu'est-ce que c'était le problème avec les chrétiens du premier siècle? Ils avaient des problèmes aussi. Les Corinthiens étaient très déréglés. Les Galates étaient trop stricts. Hein? Ils fixaient quelques règles afin de devenir parfaits par les œuvres de la chair. Et chaque église avait des problèmes différents. Donc, si on revient vraiment au christianisme du premier siècle, ça veut dire que, bon, on a des problèmes. Mais si on revient au second siècle, c'est qu'on essaie de conformer tout le monde à tout le monde et c'est des questions d'autorité plus que questions d'esprit. Voilà. Et une certaine complexité.
On a besoin, même comme un troupeau, on a besoin quand même d'être
encadré. Encadré, oui, mais. Dans la liberté.
Dans la liberté.
Ouais. Ok, je vais arrêter le.